Il est 18h, vous écoutez le studio Kalangou. Bonsoir, bienvenue, le journal en français. À la une de cette édition, le 25e anniversaire de la conférence nationale. Quels sont les événements qui ont précédé cette conférence? Quel était l'esprit? Réponse dans ce journal. Le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a signé le 20 juillet dernier un arrêté confiant la gestion des enseignants contractuels de base aux communes. La réaction du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB. Conférence de presse du rapporteur de l'Union africaine sur le mariage précoce au Niger. Le Niger a le taux le plus important au monde. Selon le rapporteur spécial de l'Union africaine sur le mariage des enfants en Afrique, Fatima Zohar Deladi, c'est une question transversale qui concerne le ministère de la Population, de la Justice et celui de la Santé. Vous l'entendrez tout de suite. Le programme d'assistance humanitaire du programme alimentaire mondial PAM en faveur de milliers d'enfants risque d'être suspendu faute de moyens. On en parle dans la partie magazine de ce journal. Le développement de tous ces titres et bien d'autres avec Diallo Mariama Kenda, 29 juillet 1991, 29 juillet 2016, il y a 25 ans, jour pour jour, se tenait la Conférence nationale souveraine du Niger. Ce grand forum de la nation a permis à notre pays de passer d'un régime militaro-civil, parti-État, à une transition au multipartisme. Kungu Mamandantani nous rappelle les faits.
La conférence nationale de 1991 avait été précédée d'événements particulièrement graves. La marche des élèves et étudiants le 8 novembre 1989. Une autre marche, le 9 février 1990, réprimée dans le sang à Niamey, qui avait provoqué la mort de 3 étudiants et plusieurs blessés. À cela, il faut ajouter la situation dans le nord et la mort de plusieurs dizaines de personnes à Tintabaraden en mai 1990. C'est dans ce contexte que la même année, la centrale syndicale USTN et l'USN, Union des scolaires nigériens, avaient exigé la tenue d'une conférence nationale souveraine. En ce temps-là, le Niger était dirigé par un régime militaro-civil et le parti État, le MNSD, avait la plénitude du pouvoir d'État. Ouverte le 29 juillet 1991, elle devait prendre fin le 3 novembre 1991 et jeter les bases de la démocratie pluraliste.
Les Nigériens se souviendront toujours de cette conférence qui a duré 3 mois. Selon l'homme politique nigérien Sanusi Tambari Jaku, les véritables acteurs de la conférence nationale de 1991 se trouvaient au niveau de l'USTN, l'Union des syndicats travailleurs du Niger, et de l'USN, l'Union des scolaires du Niger. Il explique l'esprit dans lequel la dite conférence a été organisée.
L'esprit de la conférence nationale, premièrement, c'était de lutter contre la Banque mondiale, le FMI, ces institutions de Bretton Woods et toutes les mesures qu'ils ont voulu imposer au peuple nigérien. Parmi les mesures, il y avait la liquidation de tout notre acquis économique, la liquidation de toutes nos sociétés d'État, d'économie, des offices, etc. Autrement dit, le retrait de l'État du système économique de notre pays. Ils voulaient réduire drastiquement la masse salariale et par conséquent faire débaucher même beaucoup de travailleurs et empêcher à ce que l'État recrute des fonctionnaires. C'est la conséquence d'une des mesures qui a été imposé au Niger et que la conférence nationale combattait. La conférence nationale a dit net, nous ne sommes pas d'accord pour la poursuite des privatisations et liquidations. Nous ne sommes pas d'accord pour restreindre la masse salariale. Nous ne sommes pas d'accord pour essayer d'appliquer ce qu'on appelait le programme d'ajustement structurel.
Sanusi Tambari Jaku, homme politique nigérien, toujours à propos du 25e anniversaire de la conférence nationale souveraine du Niger. Je vous propose à présent d'écouter l'acteur de la société civile nigérienne, Nuhu Mamadou Arzika, qui était l'un des artisans de cette conférence. Selon lui, 25 ans après, le bilan de l'exercice de la démocratie est mitigé. Il est au micro de Mokhtar Amadou.
25 ans après, on peut se dire que jusqu'à présent, malgré tous les soubresauts que nous avons connus dans notre pays au lendemain de la tenue de cette conférence, des tentatives de remise en cause multiples qui ont pu être observées n'ont pas, en tant que telles, émoussé l'espoir de voir la démocratie s'établir, se consolider et même se promouvoir dans notre pays. Aujourd'hui, notre processus démocratique enclenché à partir de cette période connaît évidemment quelques difficultés dans ce qu'il est devenu. Parce que entre l'espoir que nous avons fondé de voir une démocratie se faire, s'observer dans l'esprit de ce qu'on dit communément, qu'il s'agit d'un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, on constate que, effectivement, durant toute cette période, il y a eu des hauts et des bas. Et il y a eu des situations assez tumultueuses qui font qu'aujourd'hui encore, on peut dire que la démocratie au Niger, son exercice est mitigé.
C'était Nuhu Arzika, acteur de la société civile nigérienne. Le Premier ministre Brigitte Raffini, accompagné par une forte délégation, est aux États-Unis pour une visite de travail en début de cette semaine. La délégation du Niger qui séjourne à Washington a rencontré le président par intérim de la Banque mondiale, Joachim Levy. Selon le Sahel dimanche de ce matin, au cours de cette rencontre, un accord de financement de fonds additionnel a été signé entre la partie nigérienne et la Banque mondiale pour un montant de 70 millions de dollars, soit environ 35 milliards de francs CFA. Ce fonds additionnel est constitué comme suit, 30 milliards sous forme de dons et 5 milliards en crédits à taux concessionnel. De nouvelles révélations dans l'affaire des Panama Papers, un article publié sur le site du Centre africain du journalisme d'investigation et réalisé en coordination avec le consortium international de journalistes d'investigation cite le nom de Mohamed Rissa Ali, dit Rimbo, le patron de la société Rimbo. Des détails avec Tarnan Foude Ahmad.
Mohamed Rissa Ali, dit Rimbo, patron de la société Rimbo Transport Voyageur RTV, a créé en 1999 une société dénommée Rimbo qui a d'abord eu comme activité principale l'import-export et qui s'est ensuite spécialisée dans les transports de voyageurs, son activité principale à partir d'avril 2003. Un article publié sur le site du Centre africain du journalisme d'investigation en CIR, réalisé en coordination avec le consortium international des journalistes d'investigation, affirme que Mohamed Rissa Ali a créé en 2008 par l'entremise de la firme panaméenne Mossack Fonseca une société offshore aux Seychelles et ouvert un compte bancaire. Pour l'instant, il n'a pas été possible de joindre Mohamed Rissa Ali. Les informations de cet article s'appuient sur le fameux Panama Papers, ce document confidentiel issu du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca et qui contient des informations sur plus de 200 sociétés offshore. En tout, plus de 11 millions de fichiers transmis en 2015 par un lanceur d'alerte anonyme à un journal allemand, lequel l'a immédiatement partagé avec le consortium international pour le journalisme d'investigation. Ce consortium regroupe 108 autres rédactions dans 76 pays.
Le ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a signé le 20 juillet dernier un arrêté confiant la gestion des enseignants contractuels de base aux communes. Détail avec Asmana China.
Selon ce texte, la commune est désormais responsable du recrutement des enseignants dans sa zone de compétence en relation avec les services techniques déconcentrés du ministère de l'enseignement primaire. Elle est aussi comptable de la gestion des enseignants contractuels. D'où vient l'argent des salaires? En théorie, la loi des finances prévoit chaque année que des ressources financières sont versées pour le recrutement et la gestion des enseignants contractuels par les communes. Cela concerne l'enseignement primaire, l'alphabétisation, la promotion des langues nationales et l'éducation civique. La commune, en relation avec les services déconcentrés concernés, élabore et transmet un rapport semestriel sur l'état général du recrutement et de la gestion des enseignants contractuels.
Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base rejette cet arrêté du ministère de tutelle qu'il qualifie de banalisation de la fonction enseignante. Issaka Omaru, membre du BEN Sinaseb, au micro de Asmana China.
Avec la gestion au niveau régional, c'est seulement Niamey et Agadez qui payent régulièrement leurs contractuels. Ça veut dire que même la gestion au niveau régional, a montré ses limites. Et au moment où nous nous attendons à ce que l'État ramène la gestion de ses contractuels au niveau national, c'est à ce même moment que ces autorités réfléchissent et ramènent la gestion de ces contractuels à un niveau plus bas. Si aujourd'hui l'État dispose des moyens nécessaires pour payer les contractuels, il n'y aura pas d'arriéré de pécule. Nous, nous estimons que c'est une fuite de responsabilité que l'État dise qu'il va transférer les ressources parce qu'il va mettre les communes devant les faits accomplis. Mais nous savons que dans la pratique, ça ne peut pas se faire. Nous disons non à cet arrêté parce que nous n'avons pas confiance à la gestion des communes et nous ne pouvons pas accepter à ce que le sort de nos camarades puisse être ramené à un niveau aussi bas et nous estimons que c'est une banalisation de la fonction enseignante en signant cet arrêté.
Vous venez d'entendre Issaka Oumarou, membre du BEN Sinaseb. L'Union africaine a proposé à une trentaine de pays qui ont le taux le plus fort de mariage des enfants de lancer à l'échelle nationale la campagne « Mettre fin au mariage précoce des enfants ». Au Niger, celle-ci a été lancée officiellement en décembre 2014. Selon Fatima Zohar Deladji, rapporteure spéciale de l'Union africaine sur le mariage des enfants en Afrique, le Niger a le taux le plus important au monde. Elle estime que c'est une question transversale qui concerne le ministère de la Population, de la Justice et celui de la Santé. Fatima Zohar Deladji, rapporteure spéciale de l'Union africaine sur le mariage des enfants, en Afrique, elle est au micro de Adama Dawaki.
Les filles de moins de 15 ans sont mariées à un taux de 50-52%, ce qui est énorme. Et il y a des régions du Niger où le taux avoisine les 80% dans certaines régions du Niger. Donc ceci, c'est intolérable. C'est pour ça que le Niger a accepté donc de lancer cette campagne à l'échelle nationale et de mettre en place, en partenariat avec la société civile, les organismes des Nations Unies, avec les grandes ONG internationales, de mettre en place une stratégie pour lutter contre ce mariage des enfants. Il est clair que ce n'est pas uniquement le problème et la préoccupation du ministère chargé de la promotion de la femme et la protection de l'enfant. C'est vraiment une question transversale qui concerne le ministère de la Justice. Il faut maintenant absolument que des textes juridiques soient mis en place. Ça, c'est une nécessité. Donc, c'est pour ça que nous avons recommandé la création d'une plateforme qui regrouperait tous ses partenaires pour pouvoir déterminer un plan d'action et œuvrer tous vers le même objectif qui serait de réduire ce taux énorme que vous avez au Niger de mariage des enfants.
Propos recueillis par Adama Dawaki, 18h passé de 12 minutes, la partie magazine de ce journal. Le programme alimentaire mondial PAM Niger, pour manque de moyens, risque de suspendre son programme d'assistance humanitaire à des milliers d'enfants souffrant de malnutrition s'ils ne trouvent pas rapidement des ressources supplémentaires. Le PAM dit avoir besoin d'environ 20 millions d'euros pour venir en aide aux plus vulnérables. Benoît Théry, représentant du PAM au Niger au micro de Moutari Mamadou.
Nous avons certaines opérations qui manquent de fonds. Donc, par exemple, l'opération sur Difa qui assiste les gens qui sont affectés par la crise au Nigeria et à Difa. On a eu pas mal de support des donateurs et on a pratiquement de la nourriture pour assurer cette opération jusqu'à la fin de l'année. Mais sur le reste du pays, et notamment pour les programmes de nutrition, de cantines scolaires et de récupération des terres, on a vraiment des difficultés à trouver des fonds. On a dû commencer à réduire les rations de certains programmes et on va devoir les arrêter si on ne trouve pas de fonds supplémentaires. Bon, les conséquences, si je prends l'exemple de la malnutrition, c'est là que pour le moment les conséquences seraient les plus graves à court terme. On est en pleine période de soudure, c'est déjà la période dans laquelle les pics de malnutrition sont les plus élevés. On a des taux de malnutrition qui sont vraiment pratiquement à 15%, qui est le seuil d'urgence déclaré par l'OMS. C'est la période des malarias aussi, donc les conséquences peuvent être graves avec si on n'arrive pas à trouver les fonds pour continuer à soigner les enfants qui sont victimes de malnutrition modérée, avec des enfants qui risquent de basculer en malnutrition sévère, avec des risques de décès. Bon, alors l'ensemble des besoins d'ici à la fin de l'année pour le PAM s'élève à un peu plus de 20 millions de dollars américains, avec des priorités, comme je viens de le dire, la nutrition est beaucoup plus prioritaire. Pour la nutrition, il faudrait qu'on trouve à peu près 8 millions pour assurer la cantine scolaire. Donc on assure la cantine scolaire à peu près 200 000 enfants dans 1 200 écoles à travers le pays. Et pour le premier trimestre de l'année scolaire 2016-2017, il nous faut trouver 5 millions pour assurer ce programme-là. La récupération des terres, il faut savoir qu'on a pas mal de programmes avec les très pauvres ici, où on récupère, on réhabilite des terres et on les redistribue aux très pauvres. Et pour ce programme, il nous faudrait trouver à peu près 5,8 millions. Et pour les réfugiés maliens, à peu près 1,9 million. Donc le total étant ça. Donc on a eu la chance hier d'avoir un appel qui a été lancé par le gouvernement, par le Premier ministre d'intérim, le ministre d'État Bazoum. Et donc j'espère que ça va. Il a demandé aux donateurs de continuer à nous supporter, d'essayer de trouver de l'argent pour qu'on puisse continuer nos programmes.
Voilà, c'est tout pour ce journal. Place à présent au forum de la presse présenté par Mokhtar Amadou.